Bonjour à toutes et à tous dans le mag. Aujourd'hui, chat, alors bien sûr, comme tous les vendredis, cette semaine, Emeline va s'intéresser à la reproduction des chats. Elle sera au téléphone avec une éleveuse de la race British. Juste avant, et même dès maintenant, on va reparler du projet de parc des expositions de Malan. Un nouveau projet a été voté par l'agglomération. Et dans le camp des opposants, on ne lâche pas le morceau. Thierry Touya, membre du collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois.
Alors, donc, au dernier conseil communautaire qui avait lieu le 5 avril, une délégation de ces pétards était présente. Et nous avons à la fois écouté des interventions qui semblent indiquer que ce projet bat de l'aile, mais les faits, en fait, et nous, notre rôle d'association, c'est de s'occuper, de décortiquer les faits et d'apporter une information précise aux habitants. Les faits disent que ce projet continue. Et donc, après avoir analysé la délibération et les expressions des élus qui portent le projet, on peut dire que ce projet continue. C'est un projet d'un parc des expositions revu à la baisse, bien moins ambitieux pour limiter les coûts d'investissement. Mais il va coûter au final beaucoup plus cher. Quand on reconstruit en fait tout l'historique des coûts, eh bien on aboutit à un projet qui coûtera au total plus de 30 millions d'euros. Donc c'est notre, on va dire notre mission d'alerter les habitants sur ce fait.
Contre combien à la base le projet ?
Alors là aussi, le projet est toujours flou puisque ce sont des millions d'euros d'investissement pour lesquels on demande aux conseillers communautaires de voter. Mais la délibération est très succincte. Le projet est flou, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de tableau récapitulatif des coûts. Sur le site de l'agglomération, le site internet, le projet est annoncé à 18,8 millions. Mais il n'y a pas le détail. Voilà. Nous, quand on ajoute tous les coûts, c'est-à-dire scénographie, les coûts passés de maîtrise d'œuvre, l'acquisition foncière, le terrassement, on aboutit donc à plus de 30 millions d'euros. Alors nous, on est un peu confortés en fait dans l'analyse qu'on avait fait il y a un an déjà de cet équipement. On estimait qu'il n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas un besoin en fait pour le territoire. On est confortés puisque ça a été dit au conseil communautaire. Les acteurs économiques qui devraient bien sûr porter haut et fort ce projet, les chambres consulaires, la CCI, la chambre d'agriculture, la chambre d'artisanat, ne participeront pas financièrement et ne soutiennent pas ce projet. Ils ne sont pas demandeurs, les acteurs économiques. Donc nous, on estime que c'est un projet qui va coûter cher. Il y a la concurrence du parc des Expos d'Albi. On vous rappelle que maintenant, avec la nouvelle de Foy-de-Voie, il est très près de Rodez. La hausse du coût du carburant fait qu'on pense que l'affluence ne va pas être au niveau de ce qui avait été prévu au début de ce projet. Et également aussi des frais de fonctionnement très élevés qui n'ont pas été réévalués. Ces frais de fonctionnement seront à charge de Rodez Agglo. Donc on prend un risque énorme ici d'avoir un équipement déficitaire qui coûtera aussi chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros peut-être à la collectivité.
Donc ce nouveau projet... Nouveau projet, vous allez continuer de le combattre, même s'il prendra moins de place, il sera moins haut, il coûtera plus cher. Enfin, vous allez continuer de le combattre ?
Alors oui, c'est le rôle de notre association. Donc on rappelle que le permis de construire du parc actuel est toujours en justice. Ça n'a pas été réglé encore, ça n'a pas été jugé. Et si ce nouveau projet passe, c'est-à-dire si les entreprises répondent à la nouvelle enveloppe qui a été votée, un nouveau permis de construire devra être déposé. Et donc notre association a prévu bien sûr de s'opposer à ce nouveau permis de construire.
Alors comment vous comprenez que l'agglo poursuit dans ce projet si elle n'a plus de soutien de la CCI et puis d'autres organismes qui auraient pu y contribuer ? C'est quoi, pourquoi elle continue ?
Alors nous en fait on est une association, on n'a pas un rôle politique, donc effectivement on ne comprend pas et on ne sait pas tout ce qui se joue exactement. À ce niveau-là, puisqu'on voit bien qu'il y a des expressions publiques qui sont peut-être pas toujours, qui correspondent pas à ce que pensent les élus en privé. Enfin voilà, nous, c'est pas notre domaine et effectivement, on ne sait pas ce qui se joue exactement.
Alors, il peut se dire ici ou là que finalement, bon, l'agglo continue d'avancer sur le projet en le modifiant, en réduisant sa taille, son ambition. Mais tout ça, c'est un début d'enterrement de première classe, on va dire. Finalement, il ne sera jamais, mais bon, on avance, et puis au bout d'un moment, on oubliera, et puis il n'y aura rien.
Oui, alors, on était présents au conseil communautaire, on a entendu tout ça, on a entendu certaines déclarations d'élus porteurs du projet qui semblaient indiquer que le projet bat de l'aile. On a entendu aussi certains élus qui ont quitté la majorité à Rodez, qui s'opposent publiquement maintenant au parc de Malan, mais ils sont pas élus communautaires, quoi. C'est pas eux qui votent, c'est pas eux qui décident. Donc nous, on reste sur la ligne que factuellement, en fait, sur 50 élus communautaires, seuls 9 ont voté contre, 8 se sont abstenus, donc on peut penser qu'ils ne soutiennent pas le projet. Ça fait quand même une majorité d'élus qui continuent à penser que c'est un projet voilà, qui est raisonnable, qui va être utile au territoire, etc. Et ça, ce n'est pas du tout notre avis.
Ce projet, donc, il avance, hein, puis cette délibération. C'est quoi les prochaines étapes, normalement ?
Alors là aussi, des déclarations qui ne vont pas toutes dans le même sens. Donc on a entendu que l'appel d'offres allait être examiné en juin. Et puis on a aussi entendu, donc par les élus qui portent le projet, que l'appel d'offres serait examiné au moment opportun. Donc là aussi, c'est un peu flou.
Affaire à suivre. Allez, après M, dans ta radio, Chaleur avec Emeline, comme tous les vendredis. Dans ta radio, c'est CFM Rodez 107.9, évidemment.
Faut que je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. De ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
FM Rodez, le mag.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Chaque semaine, dans Chat alors, sur CFM Radio, je vous parle des chats. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Hubert, éleveuse de chats de la race British, avec qui nous allons parler reproduction. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Emeline, merci de m'accueillir.
Avant de penser reproduction, naissance des chatons, un éleveur professionnel se doit de choisir ses reproducteurs. Comment tu fais ce choix ?
Alors, mes premiers reproducteurs, je suis allée les chercher à l'étranger, en Allemagne, en Pologne, en Russie. J'ai parfois même fait le voyage pour aller les chercher. Et mes choix sont souvent le résultat d'un coup de cœur sur Facebook, en tenant compte évidemment des trois points essentiels à travailler en élevage, à savoir la santé, la beauté et le caractère. En ce moment, par exemple, j'ai deux chats qui proviennent d'Ukraine et tous mes autres chats sont nés à la maison. Ce sont des chatons que j'ai gardés sur mes portées. Le but de l'éleveur étant de créer une « lignée » entre guillemets avec plusieurs chats avec son affixe sur le pédigré. C'est vrai que c'est plus émouvant d'avoir vu naître un chat chez soi issu de son travail sur plusieurs générations que de faire venir un chat de l'extérieur, et même si par moments c'est nécessaire à cause de la consanguinité. Et du coup, quand je choisis mes reproducteurs, je commence d'abord par vérifier les pédigrés pour voir si la consanguinité existe ou pas, si c'est compatible avec mes chats. Le but est évidemment de fixer les qualités acquises et de corriger les défauts restants. Et j'étudie donc les paramètres génétiques du chat, aussi bien sur le pédigré que le groupe sanguin du chat, savoir s'il porte longueur, s'il porte une couleur cachée. Ensuite, évidemment, viennent les tests de santé. Alors, chez le British, il y a une maladie héréditaire qu'on teste qui s'appelle la PKD. Ce sont des kystes sur les reins et c'est une maladie mortelle. Donc, tous mes reproducteurs sont testés, sont indemnes et donc ne feront que des chatons qui seront sains. Après, il y a une maladie qui peut atteindre tous les chats, que ce soit les chats de gouttière ou les chats de race. C'est la CHM, la cardiomyopathie hypertrophique, qui est une maladie du cœur qui fait épaissir la paroi du cœur. Donc, comme là, sur cette maladie, il n'y a pas de test génétique, on fait des échographies cardiaques tous les ans de ces reproducteurs pour vérifier que leur cœur va bien et qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, le dernier point important, c'est les démarches administratives. C'est-à-dire que quand un chat vient de l'étranger, bien sûr, il a un pédigré étranger, mais il faut le faire enregistrer d'abord dans la base de données de l'ICAD. Alors, cette base de données, c'est un fichier de référence qui est unique en France du ministère de l'Agriculture. Et c'est obligatoire. Et ensuite, on fait une demande de certificat d'enregistrement de généalogie. Ça correspond à un pédigré français. On fait cette demande auprès du LOF, qui est le livre des origines félines. Et c'est indispensable pour que le chat puisse reproduire en France. Et puis ensuite, les mariages autorisés dans la race british que j'élève, c'est uniquement entre british.
D'accord. Eh bien, c'est pas simple. C'est pas juste « Ah, celui-là me plaît, je le prends ».
Il y a tout, voilà, c'est ça, c'est un plus compliqué, c'est vrai.
Il y a tout un protocole que tu nous as bien expliqué. Alors, on a choisi les reproducteurs, on a choisi le papa, on va dire, on a choisi la maman. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que donc, on va les marier, mais il faut qu'il y ait un coït, il faut appeler un chat, comme on dit. Donc déjà, les chaleurs, comment ça se passe? C'est quand? C'est comment? Qu'est-ce qu'un éleveur fait à ce moment-là? Raconte-nous.
Alors les chaleurs, c'est très variable en fonction des femelles et des races. Il y a des races qui ont des chaleurs plus fréquentes que d'autres. Bon, moi j'ai eu exceptionnellement une femelle qui avait des chaleurs une fois par an et qui du coup fallait pas les manquer sinon on attendait l'année suivante. Mais en général c'est plutôt une fois par mois. Ensuite il y a des chattes qui peuvent être en chaleur une semaine sur deux et là ça devient très compliqué parce qu'on sait qu'on ne fait qu'un mariage par an. En élevage on a droit à maximum 3 portées en 2 ans pour pas fatiguer les femelles. Donc il faut contrôler ces chaleurs à la fois parfois en mettant des implants au reproducteur, que ce soit le mâle ou la femelle, pour que ça fasse chuter le taux d'hormones et qu'ils soient comme s'ils étaient stérilisés pendant une période donnée, en fait, la durée de l'implant.
Oui, c'est un moyen de contraception.
Voilà, un moyen de contraception, c'est ça. Parce que trop de chaleur, ça peut engendrer des infections et évidemment, c'est très, très dangereux. Ensuite, comment on devine qu'une femelle est en chaleur? C'est en général assez facile parce que son comportement est très extraverti. Alors, ça va les premiers jours de petits miaulements qui ressemblent à des grincements discrets, à des hurlements répétés qui vous percent le tympan. Et puis, elle se roule, elle se frotte contre tout ce qu'elle trouve, aussi bien les meubles, les jambes, les autres chats. Elles deviennent plus câlines et même quand elles sont vraiment prêtes, elles se prennent une position, le derrière en l'air et la queue de côté qui est sans équivoque. Voilà, comme si elles fléchaient l'endroit qui doit être visé.
Oui,
voilà.
C'est tout à fait ça.
Ce que je pourrais dire ce que je peux dire de plus, c'est que ces chaleurs-là, généralement, s'étalent sur une période où la luminosité est la plus forte, c'est-à-dire de janvier à août. Et heureusement, en fin d'année, il y a parfois une période de calme où la femelle peut reprendre ses esprits, reprendre du poids aussi, parce que les chaleurs répétées font maigrir, et être au calme en attendant l'année suivante.
Alors là, la femelle est en chaleur, il faut la présenter au mâle. Alors, certains éleveurs ont le mâle et la femelle au même endroit, mais des fois, un éleveur peut faire appel à un reproducteur d'un autre élevage. Comment ça se passe ?
Oui, effectivement. Alors, en général, on sépare ces mâles, surtout si on en a plusieurs, on sépare les mâles des femelles pour pas avoir des mariages surprises, hein, parce que le mâle, il sait avant nous que la femelle est en chaleur. Et la plupart du temps, c'est la femelle qui est amenée sur le terrain du mâle. C'est-à-dire que même s'il est séparé dans son propre élevage, on met la femelle chez le mâle. Après, si on doit l'emmener chez un autre éleveur, c'est souvent entre éleveurs qui se connaissent, qui ont les mêmes règles sanitaires et où il y a une confiance totale, parce que il faut que les chats soient à jour de leur vaccin, qu'ils soient testés FIV, FLV, c'est-à-dire sida, leucose, qu'ils soient indemnes. Voilà, ça nécessite quelques précautions sanitaires, j'entends. Il y a de rares cas où la femelle est difficile, elle se met pas en position, et dans ces cas-là, parfois on déplace le mâle, mais la plupart du temps, c'est la femelle qui va jusque chez le mâle. Et on attend le troisième jour de chaleur pour que la femelle soit bien prête et consentante. Idéalement, il faut plusieurs saillies pour qu'il y ait une bonne ovulation. On laisse les tourtereaux environ 3 jours, pas trop longtemps, ça peut être un peu plus longtemps, mais on essaie de réduire pour que la date approximative des naissances devienne pas trop aléatoire. Pendant la saillie, le mâle est à cheval sur la femelle, il la tient par la peau de la nuque pour l'immobiliser. Il pédale avec les pattes arrière pour faire monter les hormones chez la femelle. Et à ce moment-là, la femelle, elle émet des petits grognements. Et à la fin de l'accouplement, là, elle pousse un grand cri, elle se roule, elle fait sa toilette. Et l'éleveur aussi pousse un grand cri de victoire parce que la saillie a eu lieu. Soit on assiste aux saillies quand le mâle n'est pas trop timide, soit on dispose des caméras ou des babyphones pour suivre leurs ébats. Et c'est au moment où le mâle se retire que l'ovulation se produit. C'est-à-dire que le mâle, sur son sexe, il a ce qu'on appelle des spicules, qui sont des petits picots. Et c'est ces petits picots par friction, en fait, vont déclencher l'ovulation chez la femelle. Et c'est pour ça qu'elle crie, parce qu'en fait, c'est un peu douloureux. Et un mâle expérimenté, en général, s'éloigne assez vite de la femelle, prudemment, parce que brutalement, elle est de mauvaise humeur et elle peut donner des coups de patte. Et c'est pour ça aussi qu'on prend soin de bien couper les griffes des deux participants, de les mettre en présence.
D'accord, il y a des précautions à prendre. Si ça ne marche pas, l'insémination artificielle peut se faire.
Alors l'insémination artificielle, pour l'instant, ne se fait qu'à Maison Alfort, qui a un peu le monopole. Et c'est pas encore, il n'y a que 30% de réussite. C'est un petit peu barbare, entre guillemets, puisqu'on extrait l'éjaculat du mâle avec une décharge électrique. Oui. Donc, évidemment, qui est sous anesthésie générale. Et en plus, c'est compliqué parce qu'il faut qu'au même moment, on amène la femelle en chaleur et le mâle, les deux en même temps, pour pouvoir inséminer la femelle. En fait, c'est plus à l'étude pour les grands félins, pour la sauvegarde des grands félins.
D'accord.
On le fait chez les chats, mais je pense que c'est plus pour l'avenir des grands félins.
Oui, et ça fonctionne bien sur une autre espèce qui est le chien, l'insémination artificielle. Entre parenthèses,
d'accord.
Oui.
D'accord, et sur le chat, c'est, voilà, c'est encore... oui, c'est moins... La réussite est moins sûre.
On en était à la femelle qui envoie balader le mâle qu'à l'accouplement qui dure quelques secondes et terminé. Alors, est-ce que ça marche à tous les coups ? Est-ce qu'il y a saillie, il y a forcément gestation derrière ?
Alors non, même parfois il y a saillie et en fait, il n'y a pas de gestation. Ou il y a une gestation qu'on appelle, c'est une fausse gestation où la femelle fait semblant d'être pleine et alors qu'elle est vide. Et parfois, du coup, les chaleurs ne reviennent pas avant 40-60 jours, comme si elle était pleine alors qu'elle est vide. Et puis, il y a des femelles qui ont, comme les humains, des affinités et qui ne veulent pas d'un mâle ou qui ont des préférences. Voilà, donc c'est jamais sûr. C'est pas on met un mâle et une femelle ensemble, on est sûr qu'il y aura des bébés. Voilà.
Comment on peut le savoir et à quel moment que la gestation est en cours ?
Alors, quand on a entendu les cris, etc., que la femelle s'est roulée, qu'elle a fait sa toilette, déjà on a bon espoir et on surveille la couleur et la taille des tétines deviennent rose framboise au bout de 3 semaines et qui grossissent. Donc, généralement, on a pris les précautions de prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour pile à 3 semaines faire l'échographie de gestation. Bon, alors quand on y va, en général, si les tétines sont roses framboises, déjà, on a une idée positive. Et à l'échographie, on voit ce qu'on appelle les ampoules. Alors, les ampoules sont des poches individuelles dans lesquelles se trouvent les chatons. Alors, on peut les compter. C'est pas toujours évident, mais on peut les compter. On voit bien dans chaque poche un petit chaton avec le cordon qui est relié au placenta. Et surtout, on voit les cœurs battre, ce qui est toujours très émouvant. Et ensuite, bon, quand c'est confirmé, moi, je retourne chez le vétérinaire quelques jours avant la mise bas pour faire une radio, pour compter les chatons. Parce que là, avec les squelettes qui sont formés, qui se forment à partir du 45e jour de gestation, on voit bien les têtes et les squelettes des chatons. On peut les compter plus facilement, bon, sauf s'il y en a beaucoup, beaucoup et qui se superposent. Et on peut voir aussi s'ils sont en siège ou la tête en bas, parce qu'il y a beaucoup de chatons, presque 1 sur 2, qui naît en siège.
Combien de temps dure la gestation et dans quelle ambiance pour la maman?
Alors, la gestation, ça dure environ 65 jours. C'est vrai qu'il y a des femelles qui mettent un tout petit peu avant ou parfois jusqu'à 70 jours, mais la moyenne, c'est 65 jours. Et la femelle, dès qu'elle est pleine, elle devient très vite, très calme. Elle dort plus, elle mange plus que d'habitude. Et vers la fin de la gestation, elle adore se mettre sur le dos, présenter son ventre pour qu'on lui caresse pendant des heures. Plus la mise bas approche, plus elle a envie qu'on lui caresse le ventre. Et pendant toute cette période, l'alimentation doit être plus riche. Hein. La femelle doit avoir des croquettes plus riches. On voit le ventre qui s'arrondit, qui prend la forme d'un ballon de rugby. Et puis, une semaine avant la mise bas, j'isole la femelle dans la nurserie pour qu'elle soit au calme avec sa caisse de mise bas et avec tout le matériel nécessaire pour la naissance. Ça, tout est préparé d'avance. Voilà, comme un trousseau.
Si tu devais donner 3 mots pour ton métier, ce serait lesquels?
Alors, ce serait passion, patience et persévérance.
Les 3 P. D'accord.
Voilà, les 3 P.
Est-ce que tu gagnes de l'argent à élever et vendre des chatons de race?
Alors là, j'hésite entre le rire et les larmes, parce qu'en 12 ans d'élevage, j'ai eu chaque année un énorme déficit, voire abyssal. Et il faut vraiment avoir la passion chevillée au corps, avoir envie d'y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, gérer aussi un peu de stress, et puis renoncer parfois à ses week-ends et ses vacances.
Il n'y a pas d'argent à se faire sur le dos des animaux, en tout cas pas dans l'élevage félin, familial. Il faut faire beaucoup de portée, familial, c'est autre chose. Je te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé pour nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton élevage, ton site internet, ta page Facebook pour qu'on ait la curiosité de venir voir?
Oui, le site internet c'est www.chat-british-day-goumise. .fr, c'est un petit peu long. Mais si on tape chatterie des Goumises en sucre, on trouve. Hein. Même chatterie des Goumises. Et après, j'ai deux pages Facebook. Une qui s'appelle Sylvie Hubert-les Goumises. Goumises, c'est G-U-2-M-I-S. Et British les Goumises en sucre. Et j'ai aussi une page Instagram.
Je te remercie encore une fois.
Merci Evelyne, à toi aussi.
Vous trouverez donc le podcast de cette émission sur la reproduction des chats par les éleveurs sur le site de CFM Radio, mon site internet, les réseaux sociaux, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin 12. Je mettrai les liens pour retrouver le site et le Facebook de Sylvie. Et on se retrouve la semaine prochaine donc avec Valérie Mounier, qui est aussi éleveuse de chats, de la race british aussi, et qui va venir nous parler de la suite. Donc, il y a eu le coït, il y a eu la sélection, il y a eu le coït, il y a eu la gestation. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle émission Chat Alors sur CFM Radio.
Merci Emeline et bon week-end. Bon week-end d'ailleurs à toutes et à tous. Rendez-vous lundi même heure pour une nouvelle édition et en attendant une bonne fin de journée sur CFM Rhodes. Chips in the dark, trying to save paper. Chips in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-mark note up his nose. Such a mean old man. Such a mean old man.
stop, she's a go-getter. Takes him out to look at the queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something.